Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Alors nous sommes dans l'Épître aux Hébreux depuis un temps. Nous avons parlé d'Abraham, de Melchisédek, d'Aaron. Et nous allons faire une pause aujourd'hui pour parler d'un homme, l'homme qui tardait. C'est le titre de notre méditation de ce matin. L'homme qui tardait. Certains choix que nous faisons dans notre vie chrétienne, au début ou au cours de notre vie, risque de nous affaiblir spirituellement plus tard et nous amener à tarder à obéir à Dieu alors que nous devrions être remplis de zèle. Et ce matin, j'aimerais que nous voyions le cas d'un homme qui a tardé à obéir à Dieu au lieu d'être rempli de zèle. Et j'aimerais qu'on ouvre notre Bible dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, et nous allons lire les versets 1 à 16. Alors vous pourrez lire cet après-midi les chapitres avant et après, mais ce matin, nous allons prendre le temps de lire Genèse chapitre 19, versets 1 à 16. Nous sommes là après que Dieu ait décidé de détruire Sodome et Gomorre à cause du péché qui y régnait. Abraham a intercédé plusieurs fois, demandant que Dieu épargne la ville s'il y trouve des justes. Et au fur et à mesure, il est parti avec 50 justes, il est descendu au plus bas. Et Dieu a dit, ben si s'y trouve un juste, je vais sauver la ville. Et nous sommes là à ce moment où les anges vont partir et se rendre à Sodome. Alors nous lisons verset, chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot qui était assis à la porte de Sodome, Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir chez nous, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, Prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ville, dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent sortir et le laissèrent hors de la ville. Voilà, le verset 16 nous dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Voici, des anges sont venus prévenir Lot que la ville va être détruite, et Lot tarde à sortir de la ville, alors qu'il est clair que la destruction est arrêtée. Alors, on peut se demander, mais qui était Lot? Qui était cet homme qui tardait au lieu de faire diligence? Qui était cet homme qui tardait au lieu de faire preuve de zèle et quitter un lieu qui allait être détruit? Après la lecture du texte, on pourrait se dire que Lot était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, un enfant du monde, un inconverti qui vivait dans les ténèbres. Quand on lit le reste de la parole de Dieu, on voit que ce n'est pas le cas. Lot était un véritable enfant de Dieu. La grâce de Dieu s'était manifestée un jour à lui et il avait saisi la grâce pleinement par la foi. Il était un bien-aimé du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Lot était un juste, un enfant de Dieu. Retournons dans 2 Pierre, on a lu 1 Pierre ce matin, retournons dans Pierre et gardez un doigt dans Genèse. On va prendre 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 9, pour voir que la parole nous dit que Lot n'était pas un incroyant, mais qu'il était bien un juste. 2 Pierre, chapitre 2. Versets 7 à 9. On peut commencer au verset 4, 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction, réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Le verset 7 qui nous intéresse nous dit bien que s'il a délivré Lot le juste, et il continue en disant « profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement », verset 8 « car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste » à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres. Non seulement la parole de Dieu déclare que Lot était juste, mais elle fournit aussi des preuves qu'il était juste. Et nous avons lu dans l'épître de Pierre, Lot voyait et entendait les œuvres des gens de Sodome et Gomorre sans jamais imiter ces hommes méchants. Lot était en quelque sorte comme Daniel à Babylone. Il était aussi comme Abdias dans la maison d'Akab, comme bien des croyants dans un lieu de perdition, de perversion. Et il faut la grâce de Dieu pour tenir ferme dans ce milieu où il y a le mal. On voit aussi un deuxième aspect de la vie de Lot qui prouve qu'il était juste. Il nous est dit que Lot, toujours dans 2 Pierre, Lot était affligé à cause de la méchanceté qu'il voyait tous les jours. Son âme était tourmentée par ce qu'il voyait et entendait. Parce que ces hommes étaient pécheurs devant Dieu, mais à un degré du plus petit jusqu'au plus âgé, toutes les personnes de cette ville. Lot était peiné de la même manière que David. Et dans le psaume 119, David dit « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Je vois avec dégoût des traits qui n'observent pas ta parole. » Et il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse produire de tels effets, nous permettre d'être affligés devant les conduites impies des hommes. Et bien des gens sont scandalisés au début par la perversité, mais à la longue, ils s'y accoutument et deviennent eux-mêmes indifférents. Mais Lot, ce n'était pas son cas. Il était un véritable enfant de Dieu. Son âme était tourmentée tous les jours par ce qu'il voyait. La parole de Dieu nous assure que Dieu était injuste, mais elle nous dit aussi que Lot tardait. Genèse chapitre 19. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Il tardait tellement qu'on a dû, Dieu a dû prendre des mesures efficaces pour le sortir de cette ville. Lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. S'il n'en tenait qu'à Job seulement, il aurait péri avec les autres. Mais Dieu a dû prendre des mesures fermes et énergiques parce que Lot tardait. Alors on peut se demander, est-ce que la parole nous parle un peu plus de cela? On va examiner les circonstances dans lesquelles Lot tardait. Et quand on examine ces circonstances, on a de quoi être surpris. Que dit la parole de Dieu sur les circonstances qui accompagnent ce moment de la vie de Lot où il tardait? Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus, la parole de Dieu? Et regardons ces circonstances. Alors, tout d'abord, Lot connaissait l'état de corruption de la ville de Sodome. La débauche de cette ville était connue et visible. Revenons dans Genèse. Et cette fois-ci, on va aller un petit peu avant, Genèse chapitre 13. Donc, revenons dans... Genèse chapitre 13. Eh bien, 13-13, vous voyez que la débauche de cette ville était déjà connue. Genèse chapitre 13, verset 13, on nous a dit « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Et il nous a dit au point que, le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et donc, Lot, pourtant, sachant que cette ville était débauchée, il tardait à en sortir. Deuxièmement, Lot savait que le jugement allait tomber sur cette ville. Et on voit ça au verset 13, cette fois-ci, du chapitre 19. On revient dans le texte. Genèse chapitre 19, verset 13. Je commence au verset 12. « Les hommes dirent à Lot, c'est-à-dire les anges qui sont venus, les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Verset 13. « Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » Nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et pourtant, Lot tardait. C'était comme si on vous disait, il va y avoir un tsunami, et vous restez là à attendre, vous ne quittez pas, vous attendez que ça arrive. C'est pas censé. Pourquoi Lot se comporte ainsi? On voit aussi, on peut le supposer, Lot, il y avait une troisième raison qui entoure les circonstances quand on voit dans ce moment-là que Lot tarde. Lot savait que Dieu tient parole. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et il le sait parce qu'il a marché un temps avec Abraham. Quand Abraham a quitté Ur en Chaldée sous l'ordre du Seigneur, eh bien, il a emmené avec lui son neveu Lot. Et Lot a eu le temps de voir Abraham dans sa vie avec le Seigneur. Il a vu les miracles de Dieu, il a vu l'accompagnement de Dieu, il a vu que Dieu tient ses promesses. Et la preuve, ils étaient tous les deux riches. Abraham, ils avaient de grands troupeaux. Voilà, Lot savait que Dieu tient parole, on lui annonce que Dieu va détruire, le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, pas devant les hommes, que Dieu va détruire ce lieu, et Lot a assez d'expérience pour savoir que Dieu tient sa parole, pourtant on voit que Lot tarde. Une quatrième circonstance qui entoure ce moment de la vie de Lot, c'est que Lot était parfaitement au courant de l'imminence du danger, puisque lui-même, Lot a encouragé ses gendres à fuir la ville. Et c'est le verset 14 qui nous dit ça, de Genèse chapitre 19. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Il encourage ses gendres à quitter la ville, mais lui-même tarda à quitter la ville. N'est-ce pas surprenant? Et une cinquième circonstance, c'est que Lot voyait bien que les anges attendaient qu'il quitte la ville avec sa famille. Il entendait distinctement les paroles des anges lorsqu'ils insistaient pour qu'il se hâte. Et verset 15 du chapitre 19, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et nous est dit que Lot tardait quand même, malgré ça. Lot tardait alors qu'il aurait dû se presser. Il était négligent alors qu'il aurait dû être actif. Lot était froid alors qu'il aurait dû être bouillant. Cela paraît étrange, presque incroyable, mais l'Esprit de Dieu a écrit ces choses pour notre instruction. Lot, le juste, tardait. On peut se poser la question, frères et sœurs, si des fois nous ne sommes pas comme Lot. Dieu nous parle, Dieu nous dit de faire certaines choses, d'éviter certaines choses, mais nous tardons à obéir à la parole de Dieu. Et là, il ne s'agit pas d'une petite chose, il s'agit d'une destruction d'une ville. On voit l'homme, le juste, qui se tourmente du comportement de ces gens, qui a tellement d'informations, qui a l'information là avec une certitude, qui invite ses gendres à quitter la ville et lui-même tarde à la quitter. C'est surprenant. Et c'est vrai, nous pouvons être chrétiens, connaître beaucoup de choses sur le Seigneur, mais faire très peu cas de la parole de Dieu, de ce qu'il nous demande de faire. Nous pouvons avoir de grandes capacités, mais peu les utiliser pour le Seigneur. Le Seigneur, nous répétons qu'il revient bientôt, mais bon, ça, c'est pas pour moi. Voilà, je vis ma petite vie. Voilà. Il n'y a pas d'intimité avec ce Seigneur, il n'y a pas de recherche de sa face, il n'y a pas d'attachement aux choses d'en haut. Et nous sommes peut-être des frères et des sœurs de Lot, tout bouillant au début, mais ne faisant pas de progrès, renonçant à notre premier amour. Alors regardons maintenant quels sont les motifs qui expliquent l'irrésolution de Lot. Que peuvent être les raisons qui ont amené Lot à tarder alors qu'il aurait dû faire diligence? Eh bien, les raisons qui expliquent l'irrésolution de Lot sont nombreuses et diverses. Tout d'abord, on constate que Lot a fait un mauvais choix au cours de sa vie. Et c'est Genèse chapitre 13 qui nous montre ça. Revenons à Genèse chapitre 13, tournez avec moi, où là on voit Lot, à un moment de sa vie, faire un mauvais choix. Genèse chapitre 13, versets 9 à 13, que je vous lis. Peut-être qu'on va commencer au verset 1. Genèse chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Je termine ce chapitre. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà. On voit pendant un temps Abraham et son neveu Lot qui marchaient ensemble, qui voyageaient ensemble. Et tous les deux sont devenus riches et ils ont dû se séparer. Alors, bien qu'Abraham soit le plus âgé, il a laissé à Lot, son neveu, faire le choix. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse chapitre 13, verset 9. Et que fit Lot ? Eh bien, il ne fit pas tellement cas d'Abraham. Il n'a eu aucune considération pour son aîné. Il aurait pu dire, bon, écoute, je vais choisir ça, mais toi, qu'est-ce que tu veux, Abraham ? Non, il a choisi. Il nous a dit que Lot vit que toute la plaine du Jourdain et près de Sodome était bien arrosée et tellement fertile que l'auteur de la Genèse n'hésite pas à la comparer comme si ce qu'il y avait de plus beau dans le passé. Il dit que ça ressemblait à un jardin, au jardin de l'Éternel, quelque chose qui était beau, luxuriant, et quelque chose qui était beau dans le passé et quelque chose qui était beau aussi dans le présent, le pays d'Égypte. Voilà, Lot, il a levé la tête, il a vu, wow, c'est merveilleux, ah. Il y a des affaires à faire, les brebis et tout ça, ils ont de la terre, il y a de l'herbe. Et puis, j'aimerais quand même que vous remarquiez le verset 10. Reprenez avec moi le verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Au milieu du verset 10, vous voyez, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. Il y a quelque chose qui annonce, il y avait quelque chose d'annonciateur. Ce qui a attiré fortement l'intérêt de Job a été détruit. Job s'attachait à quelque chose qui était éphémère. Il marchait par la vue. Ça nous parle, n'est-ce pas? Des fois, nous sommes attachés à des choses qui vont passer. Et vous voyez, Lot, il a pris possession du pays. Il n'a pas attendu que Dieu lui dise où il faut aller. Ou plutôt, il n'a pas voulu. Il a marché par la vue. Mais Abraham, on aurait pu dire, mais il a fait le mauvais choix. Lot a pris cette plaine avec beaucoup d'herbage pour les brebis et les troupeaux. Lot a fait le meilleur choix. Et finalement, Abraham s'est laissé rouler. Il a pris la part qui était médiocre. Eh bien non, parce que Dieu va l'encourager après. Parce qu'Abraham marche par la foi. Abraham a des promesses de Dieu. Il n'a pas besoin de prendre les choses avant l'heure. Il attend le temps de Dieu. Et Dieu le lui donne. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, verset 14, lève les yeux, comme Lot, lève les yeux. Mais lève les yeux sur les promesses de Dieu, pas sur les choses de la terre. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ça ne sera pas détruit. Pour toujours, je te le donnerai. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Voilà. Un don sans mesure. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Il n'a pas possédé pour l'instant, mais Dieu lui avait fait déjà la promesse. Mais Abraham vit selon les promesses de Dieu, il ne marche pas par la vue. Alors, qu'est-ce qu'il fit Lot ? Eh bien, il va se rendre tout près de Sodome. Le pays était voisin de Sodome, mais Lot ne s'est pas inquiété de ça. Pas de problème, c'est près de Sodome, il n'y a pas de problème. Les habitants de Sodome, ses futurs voisins, étaient méchants. Pas de problème, Lot ne s'est pas soucié de ça non plus. Ils étaient des pécheurs devant l'Éternel. Lot ne tient pas compte de tous ces paramètres-là. Les pâturages étaient abondants, il a vu ça. Cela convenait parfaitement à son bétail et à ses moutons. Devant cet argument, tous ses scrupules et ses doutes s'évanouirent. Ça, c'est Lot. Lot décida par la vue et non par la foi. Il ne chercha pas le conseil de Dieu pour être préservé de l'erreur. Il regarda aux choses temporelles et non à celles qui sont éternelles. Il considéra les avantages qu'il avait pour cette vie et non pour son âme. Lot chercha son propre intérêt, son propre plaisir. Il oublia les intérêts de l'Éternel. Lot a fait un mauvais choix. Il s'est attaché à quelque chose qui a été détruit. C'était beau extérieurement. Ça paraissait solide, ça paraissait valable, mais la parole est claire, ça allait être détruit. Mais Lot a fait quelque chose, en plus de ça, Lot a fait quelque chose qui allait le pénaliser lourdement. Il nous a dit qu'il va se mêler aux pécheurs alors qu'il aurait pu s'en dispenser. Il n'y avait pas que cette plaine-là, il y avait des collines à côté. Il aurait pu y aller, mais il a choisi d'aller plutôt là. Lot commença à dresser ses tentes jusqu'à Sodome, Genèse chapitre 13, verset 12, mais il va finir par habiter à Sodome. Genèse chapitre 14, verset 12. Il nous a dit que Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, on va lire Genèse chapitre 13, verset 12, pour que vous vous rendiez compte bien. Donc les gens Genèse chapitre 13 verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Mais on voit un peu plus loin au chapitre 14, au verset 12, quand on nous est parlé de Lot, on a vu ça quand on a vu Hébreu. Ils entrèrent, ils enlevèrent aussi ses biens, ils enlevèrent aussi avec ses biens, donc Genèse 14, 12, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Voilà, on commence à s'approcher, puis après on va plus loin, on habite carrément dans Sodome. Il avait levé ses tentes, il avait abandonné la campagne pour habiter dans les rues même de Sodome, dans la cité corrompue. Nous ne savons pas les raisons qui ont poussé Lot à habiter là, à aller progressivement habiter à Sodome, mais nous savons que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne va pas vous envoyer en quelque part qu'il va détruire. Dieu ne va pas vous envoyer en quelque part où il vous dit d'en sortir. C'est vous qui choisissez, pas Dieu. C'est votre convoitise, c'est vos désirs. Peut-être que la femme de Lot préférait la ville à la campagne. Voilà, c'est peut-être qu'elle a convaincu son mari que ses filles allaient recevoir une instruction top, là. Une éducation, et puis à la ville, il y avait tellement de bonnes choses qu'on n'avait pas à la campagne. Peut-être que Lot pensa que ses affaires marcheraient mieux en ville. Frères et sœurs, chers amis, vous savez très bien que quand vous avez envie de quelque chose, vous trouvez toutes les excuses, tous les arguments pour que cette chose se fasse. En tout cas, Lot demeura à Sodome sans raison valable et plus tard, au jour de l'épreuve et du danger, Lot tardait. Lot vacillait. Il était irrésolu. L'histoire de Lot nous enseigne à faire attention à nos choix du début de la vie chrétienne jusqu'à la fin. Faisons attention quand nous choisissons notre lieu de résidence. Il ne suffit pas que la maison soit confortable, que le loyer ne soit pas trop cher. Il faut considérer d'autres choses. Nous devons penser à notre âme et nous demander si cette résidence va nous rapprocher de Dieu ou va nous éloigner de Dieu. Si on trouvera une assemblée fidèle, pas trop loin, pas trop loin, voilà, à distance convenable de notre maison. Donc c'est un choix important, le choix de notre résidence. Bien sûr, des fois, on habite en quelque part avant d'être chrétien. On ne peut pas changer comme ça. Mais quand on a le choix, réfléchissons à ça. Avant d'acheter une maison, avant d'acheter un logement, est-ce qu'il y a une église pas trop loin Parce qu'après, la distance se fait sentir. Et on commence à aller, puis à la fin, on n'y va plus, c'est trop loin. Donc ne cherchons pas toujours ce qui nous convient, demandant à Dieu sa grâce pour choisir le bon endroit de résidence. Ensuite, nous devons aussi réfléchir au choix de notre conjoint. Il ne suffit pas que, ouh, il est beau, ouh là là là, il est charmant. Quand il parle, c'est tout mon corps tremble comme un flambis. Voilà. Le prince charmant peut devenir après votre pire cauchemar. Prince charmant ou princesse charmante. Il n'est pas suffisant d'avoir des goûts communs, de nous sentir bien. Il faut quelque chose de plus. Il faut penser à notre âme. Est-ce que cette union me rendra plus charnelle ou plus spirituelle? Est-ce qu'elle va me rapprocher davantage du Seigneur ou m'éloigner de lui? Est-ce qu'elle va me rapprocher du Christ ou du monde? Tout ça est à peser, frères et sœurs. Et peser ça devant le Seigneur, demander aussi conseil. Attendre le temps, ne pas se précipiter. Nos choix sont importants. On doit aussi réfléchir au choix de notre emploi. Est-ce que le dimanche, mon employeur va me laisser aller au culte? Voilà. On avait un frère, je connaissais un frère qui était, avant d'être chrétien, il était cuisinier dans une maison de retraite. Là, il ne pouvait pas changer de métier. Il était là depuis un temps. Le dimanche, il venait habillé avec sa tenue cuisinier. Il prenait le temps de culte qu'il pouvait et il partait après. Mais voilà, c'était pas tous les dimanches. Est-ce que mes horaires vont me permettre d'assister aux réunions? Parce qu'on peut préférer remplir son compte bancaire plutôt que de remplir son âme. On peut être riche des choses de ce monde et appauvrir son âme. Donc quand on choisit un emploi, c'est important aussi. C'est important. On doit remettre ça à la main du Seigneur. On peut réfléchir aussi au choix de nos diverses activités, de nos loisirs. Est-ce que ces loisirs me laisseront le temps pour assister aux réunions? Est-ce qu'à un moment, mes loisirs n'entreront pas en compétition avec les choses de Dieu, ce qui est bien aux yeux de Dieu? Quel Dieu je vais sacrifier à ce moment-là? Est-ce que c'est l'Éternel ou mes loisirs? Tout ça, il faut réfléchir à ça avant de se lancer dans les choses. Quelqu'un écrit, la grâce de Dieu est comme une plante délicate. Il faut en prendre soin et la cultiver avec intelligence. Alors on va se dire, un croyant n'a pas grand-chose à craindre. C'est un enfant du Seigneur, c'est une brebis du Seigneur, voilà. Dieu va le protéger toujours. Oh, les petits choix qu'il fait dans la vie, c'est sans importance tout ça, des petits choix. Non, frères et sœurs, un jour vous risquez de vous trouver comme Lot, attardé au lieu d'être zélé, parce que vous avez fait les mauvais choix. Les choix qui vous plaisaient à vous. Et c'est vrai que ces choix vous donnent, je pense que Lot a choisi parce que c'était pour ses brebis. Il y avait de l'herbe, il y avait du pâturage en abondance, c'était beau, c'était tout collait, mais pas devant Dieu. Parce qu'Abraham, lui, est allé ailleurs. Voilà. Donc, attention aux choix qu'on fait, ça nous donne de l'importance aux yeux du monde, c'est beau extérieurement, mais qu'est-ce qu'en pense le Seigneur? Qu'est-ce qu'en pense le Seigneur? Lot nous instruit, n'est-ce pas? Et on voit les fruits maintenant de l'irrésolution de Lot. Quels sont les fruits d'un esprit irrésolu? Qu'est-ce que ça a produit dans la vie de Lot? Eh bien, tout d'abord, on voit que Lot n'a fait aucun bien aux habitants de Sodome. Il était là. On nous dit... Excusez-moi, je regarde le temps. On était au verset 1, on nous dit, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. » La porte de Sodome, les portes étaient un lieu où on traitait les affaires. Alors Lot était un responsable, certainement un juge. Bon, les affaires se traitaient à la porte, c'était un homme important. Il devait certainement dire aux gens, attention à la façon dont vous vivez, attention, c'est pas bien devant l'Éternel, tout ça, changez de conduite. Mais il restait là faire son business. Il ne quittait pas pour aller ailleurs. Il y avait une contradiction. Donc Lot habitait Sodome depuis plusieurs années et il a dû certainement avoir des occasions de parler des choses de Dieu, il a dû certainement chercher à détourner les hommes de la voie du péché. Cependant, il ne paraît pas que sa présence ait produit la moindre influence sur les gens qui l'entouraient. On ne trouve aucun juste dans sa maison, ni ses filles, ni ses gendres ne veulent quitter la ville quand l'heure sonne. Tous, du petit au plus grand, veulent connaître les hommes. Quand la Bible parle de connaître, c'est avoir des relations sexuelles. Voilà. Tous, du plus petit au plus grand. Et ces gens-là ne se sont pas intéressés aux choses de Dieu. Aucune connaissance de Job ne s'intéressait aux choses de Dieu. Lot. Voilà. Il vivait là, mais il n'a pas fait du bien aux habitants de Sodome. Et Lot ne possédait pas le respect que même les hommes du monde accordent parfois à un serviteur du Seigneur. Quand les gens savent que vous êtes serviteur du Seigneur, ils disent, bon, celui-là, il n'est pas comme nous. Eh bien, sa vie n'a pas eu d'effet sur les habitants de Sodome. Personne n'a été dans le sens de Lot, et quand il chercha à arrêter les gens de la ville dans leurs mauvais desseins, ceux-ci répondirent dans Genèse chapitre 19, verset 9. Vous lisez avec moi. Ils dirent, Genèse 19, verset 9, ils dirent, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. La vie de Lot a été sans influence. Ses paroles n'ont pas été écoutées. Sa religion n'a pas servi à grand-chose. Une deuxième chose qu'on voit, c'est que la parole nous montre que Lot n'a amené aucun membre de sa famille au Seigneur. Sa vie n'a pas eu d'influence sur les membres de sa famille. Personne dans sa famille ne craignait l'Éternel. Ses gendres, sa femme, ses filles. Au verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. « Qu'est-ce que tu racontes là, Job ? Il va détruire cette ville, mais depuis le temps que tu y es, tu n'es jamais sorti. » La femme de Lot va quitter aussi la ville, mais elle ne va pas aller très loin. Elle a quitté la ville physiquement, mais son cœur était encore dans la ville. Elle s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Pourtant, Dieu avait prévenu. Voilà. Elle n'avait pas la foi, elle n'avait pas compris la nécessité de fuir rapidement et d'obéir au commandement du Seigneur. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ses filles aussi ont échappé à la destruction, elles sont parties avec leur père, mais plus tard, il y a eu l'inceste, on voit ça plus tard dans toujours le chapitre 19. On voit aussi que Lot n'a pas laissé après lui un témoignage de foi quand il mourut. Quand on lit la vie d'Abraham, la vie de certains hommes de Dieu, même s'ils n'ont pas été parfaits, il y a les derniers moments de leur vie, nous parlent, nous encouragent. Voilà, on voit des hommes qui n'ont pas toujours été parfaits, mais qui reconnaissent que l'Éternel a été avec eux, qui reconnaissent leur tort aussi des fois. On connaît les derniers moments de la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, mais pas un mot de la dernière, des dernières vies de Lot. On aurait pu même douter du salut de Lot. On se demandait s'il était vraiment sauvé, cet homme. Quand Dieu va détruire la ville, il tarde. Eh bien, le Nouveau Testament nous dit qu'il est juste, mais si on n'avait pas ça, on se demandait, mais est-ce que Lot était vraiment un enfant de Dieu? Nous savons aussi peu de choses de l'histoire de Lot après sa fuite de Sodome, mais tout ce que nous savons est très peu satisfaisant. On lui dit de partir, il est en train de plaidoyer, mais non, il veut aller dans cette petite ville. Je ne vais pas tout lire, donc c'est la suite. Verset 17, Genèse 19-17, « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Verset 18, l'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite ?» On voit l'autre qui tergiverse, on lui dit d'aller à la montagne, il veut plutôt aller à Tsoar. Et après, il va quitter Tsoar. Et après, dans la caverne, il va se passer l'inceste avec ses filles. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui nous encourage dans la vie de Lot. Tout cela montre que Lot avait faibli dans la foi. Souviens-toi de Lot. Souvenons-nous de Lot et grandissons dans le discernement et la sagesse. Alors, je vais dire une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes croyant que vos enfants vont être sauvés. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. On voit que les frères de Jésus ne sont pas tout de suite devenus des croyants. On voit aussi que Noé a prêché pendant 120 ans et personne n'a cru, puisque lui et sa famille seulement sont entrés dans l'arche. Les enfants de David étaient des hommes impies, pourtant David était un homme selon son cœur. Chacun devant le Seigneur doit faire le choix. Est-ce qu'il veut accepter Jésus-Christ? Est-ce qu'il ne veut pas? C'est votre choix personnel. Vous ne suivez pas vos parents. Voilà. Donc il n'y a pas de... Ce n'est pas un automatisme, mes parents sont chrétiens, donc je serai chrétien. Ce n'est pas vrai ça. La Bible ne dit pas comme ça. Sinon, ce serait automatique. Voilà. C'est quelque chose de généalogique. Voilà. Voilà. Mais quand même, la vie de Job nous parle et nous dit attention, parce qu'il y a peut-être une relation entre le choix qu'il a fait au départ de cette ville qui était belle à ses yeux et qui pourtant est détruite, et son irrésolution plus tard. Il est tellement resté à Sodome, eh bien, qu'il a été en quelque part imbibé, et sa foi a été affaiblie. Et puis aussi, il doit y avoir un lien entre son irrésolution et puis son peu d'influence sur ça, les gens de Sodome et sur les gens de sa famille. Alors, frères et sœurs, on ne va pas se contenter d'une petite mesure de la grâce de Dieu. On ne va pas se contenter d'être des gentils petits chrétiens. On est un peu mieux que les gens du monde. On ne va pas non plus vivre avec un cœur partagé. Un jour pour le Seigneur, un jour, voilà. Ou vivre une apparence de vie chrétienne. Dieu veut un cœur tout entier. Remarquez, quand vous allez lire Abraham, les anges sont venus chez Abraham. Ils ont voulu entrer. Ils sont venus. Et Abraham leur a dit, arrêtez-vous, entrez chez moi. Et ils sont entrés dans la vie. Ils sont entrés dans la maison d'Abraham. Ils ont déjeuné avec lui. Parce qu'Abraham avait une intimité avec Dieu. Et Dieu aimait Abraham. Il aimait aussi cet environnement dans la vie d'Abraham. Par contre, quand ça a été Lot, les gens lui disent, non, on ne va pas rentrer, on va rester dans la rue. Dans la rue. Alors c'est une chose de dire qu'on est chrétien, c'est une chose d'être vraiment attaché au Seigneur. Pensons à cela. Dieu voit les cœurs. Rappelons-nous de cette veuve-là dans les évangiles. Le Seigneur regardait comment les gens mettaient dans le tronc. Ah, les riches, ils en mettaient un paquet. C'était impressionnant. Ils devaient lâcher les pièces. Ça sonnait aux yeux du monde. Oh là, quel don! La veuve a mis seulement deux petites pièces. Mais le Seigneur qui voit les cœurs a dit, elle a mis tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas mis autant que les autres, mais elle a mis tout ce qu'elle avait. Dieu voit les cœurs, frères et sœurs. Et les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Alors, n'ayons pas un cœur partagé. Et attachons-nous aux choses d'en haut plutôt qu'à celles qui sont sur la terre. Voilà, ne présumons pas de nos forces aussi, mais croissons dans la grâce et dans la connaissance de Dieu, comme le dit 2 Pierre chapitre 3, versets 17 à 18. Et j'aimerais prendre une petite référence avec vous. Excusez-moi, 2 Pierre, on terminera avec cette parole. 2 Pierre. Chapitre 3, et après nous chanterons en cantique. 2 Pierre chapitre 1, on peut commencer au verset 1. 2 Pierre chapitre 1, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne va pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous parle à chacun, que nous plaçons devant le Seigneur, et soyons honnêtes. Demandons à Dieu d'examiner nos cœurs pour voir si nous n'avons pas fait un mauvais choix ou des mauvais choix et si nous ne sommes pas refroidis. Extérieurement, ça paraît merveilleux, mais intérieurement, notre cœur n'est pas entier à Dieu. Alors chantons ce cantique, Seigneur, à ton regard de flamme.